En parlant de progrès, je voudrais commencer le serment aujourd'hui avec quelques petites questions. Je voudrais commencer en posant cette question-ci. Ma première question, d'après vous, quel sera votre état de progrès spirituel d'ici un an? Pouvez-vous imaginer des choses ou avez-vous déjà une liste de choses à améliorer, à travailler dans le plan spirituel d'ici un an? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez comprendre mieux, approfondir votre connaissance sur d'autres doctrines de l'Église ou d'autres pratiques, d'autres comportements dans lesquels vous voyez peut-être des lacunes ou des possibilités pour le progrès? Alors, ma deuxième question est similaire à celle-ci. D'après vous, quel sera votre état de progrès sur le plan spirituel dans 5 ou 10 ans? Est-ce que dans 5 ou 10 ans, votre vie sera très similaire à ce que vous vivez aujourd'hui? Ou est-ce que vous allez rencontrer d'autres chapitres de la vie, d'autres grands événements de la vie dans 5 ou 10 ans? Et si c'est le cas, faites-vous des préparations, des préparatifs pour ces changements dans le plan spirituel? Je sais que pour nous, l'idée de commencer une famille et d'avoir des enfants pour la première fois, ça a demandé beaucoup de réflexion. Parce que pendant 7 ans, ma femme et moi voyageait en Europe, faisait nos propres affaires sans les enfants. Donc après 7 ans, après avoir vécu en France 4 ans, on a décidé que c'était le bon moment d'aller plus loin. Mais on voulait quand même qu'on soit prêt. On voulait se préparer spirituellement pour ce gros tâche. Peut-être pour d'autres, c'est le mariage. Peut-être pour d'autres, c'est la carrière. Pour d'autres, c'est la retraite. Mais pour chaque période de notre vie, pour chaque chapitre, cela demande une préparation et un certain niveau de croissance, à la fois spirituelle, sur le plan spirituel. Alors, ma troisième question, j'en ai beaucoup, mais je vais me limiter à 3 pour le moment. Quel sera votre état de progrès ou votre état spirituel d'ici 100 ans? D'ici 100 ans. Alors, avec cette question, pour ceux qui ont l'imagination assez poussée, vous allez peut-être imaginer que d'ici 100 ans, le monde ne sera plus, que le monde sera complètement changé parce que le retour de Jésus-Christ est tellement imminent en ce jour-ci que les signes sont tellement apparents que le monde a besoin du retour de notre Sauveur et de notre Roi des Rois, Jésus-Christ. Donc, d'ici 100 ans, on pense déjà à cette période de 1000 ans, le millénaire, on pense à un grand changement sur le plan spirituel. Le moment où, si vous voulez, on est derrière le volant. Parce que, en ce moment-là, ça sera sur les saints de l'Éternel, la responsabilité d'enseigner. D'enseigner aux autres ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris pendant cette période de vie. Donc voilà, Christ sera déjà de retour dans notre meilleure estimation. On n'a pas de date précise, mais si nous observons le monde autour de nous, d'ici 100 ans, on devrait arriver dans le millénium. Dans ce cadre, quel sera votre état spirituel? Est-ce que vous vous faites des préparatifs pour le rôle que Dieu a prévu pour chacun de nous dans le millénium, dans son royaume, sous le règne et l'autorité de Jésus-Christ? Alors tout cela, que ça soit 1 an, 5 ans, 100 ans, ça demande de la réflexion et de la préparation et une implication à la tâche. Et si nous sommes convaincus que Dieu nous appelle à faire partie de ses saints et de ses prémices, cela nous met un petit peu de pression pour ces préparatifs, n'est-ce pas? Une bonne motivation positive pour partager cette bonne nouvelle et cette façon de vivre avec le monde entier qui est dans notre siècle présent aveuglé. Aveuglé. L'homme cherche à tout faire pour lui-même. Il y a la lutte pour le pouvoir. L'homme cherche à résoudre les gros problèmes de l'humanité et jusqu'à présent, l'homme ne réussit pas. Ça va encore plus loin parce que même dans le monde politique, il y a une lutte très, très puissante également pour ceux qui voudraient dominer, ceux qui voudraient régner sur les hommes dans cet âge. Alors, on va nous faire des grandes promesses de pouvoir changer même le climat de la Terre, de pouvoir agir sur beaucoup de choses qui sont vraiment des promesses plutôt difficiles à résoudre ou à accomplir. Mais j'invite à tout le monde à vous reporter à Matthieu chapitre 18, parce que ce progrès, ce plan de développement personnel qui est basé sur notre vie physique et spirituelle et qui vise l'avenir en tout temps, nous aide à garder l'espoir, à développer l'espoir, et cela nous aide à répondre à une demande de notre Sauveur Jésus-Christ. En Matthieu 18, nous notons que Jésus était en train de bénir les enfants, les petits-enfants. Il disait quelque chose, il a dit quelque chose qui était très notable, et ses disciples étaient entourés, étaient tout autour, et les parents de ses enfants étaient autour de lui. Et dans Matthieu 18, au verset 3, nous lisons, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, dans cette phrase, dans ce verset, comme tous les versets bibliques, il y a tellement de richesse, tellement de signification à approfondir. Et ce que je voudrais approfondir aujourd'hui, c'est l'idée de la conversion. Mais en même temps, comme nous venons de mentionner dans mes petites questions, ceci a un impact sur notre aujourd'hui, sur notre présent, dans l'an à venir. Mais également, comme Jésus même a mentionné, il y a un impact sur le grand avenir, notre possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. C'est comme quand même des gros enjeux, n'est-ce pas? Donc, examinons cette expression dans le plus de détails maintenant. Si vous ne vous convertissez, il est un fait avéré que parmi nous, parmi ceux qui assistent aux assemblées de l'Église de Dieu, certains n'ont pas encore fait ce pas d'être convertis. Ils attendent peut-être quelque chose, une motivation, un changement, avant de s'engager, avant de faire ce pas. Et je ne sais pas ce que c'est pour chaque personne, mais certains sont un peu timides, si vous voulez, à s'engager, à prioriser la conversion. Et puis certains d'autres vont poser la question, alors qu'est-ce que c'est la conversion? Parce que dans le monde chrétien moderne, nous voyons que pour plusieurs qui prêchent le nom de Jésus-Christ, la conversion est un événement qui se passe dans le lieu d'une journée, quelque chose comme prononcer le nom de Jésus-Christ et vous êtes sauvés. Pour eux, c'est la conversion. Pour plusieurs qui sont dans notre époque moderne et qui proclament le nom de Jésus-Christ et qui se disent chrétiens. Mais, frères et sœurs, nous comprenons que la conversion n'est pas limitée à une journée, n'est-ce pas? Même M. Armstrong, il y a des années, a écrit un article, « La conversion est un processus ». Si vous cherchez dans les anciens archives, vous allez le trouver, c'est un mémo. Et ça n'a pas beaucoup de comparaison avec mon sermon aujourd'hui, mais même cette phrase, pour comprendre que la conversion est un processus, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que on doit s'engager à toujours s'améliorer, à toujours chercher la croissance spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par être converti? Considérons Romains chapitre 8. Il y a un ingrédient, comme toutes les recettes, un ingrédient nécessaire pour que la conversion se fasse, et c'est bien sûr l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est un élément clé, est essentiel pour nous permettre la conversion. On n'a pas en nous la capacité d'être réconcilié avec Dieu, d'être perfectionné sans posséder, sans que cet esprit soit en nous. Et c'est avec l'Esprit de Dieu, nous avons mentionné ça pendant la fête de la Pentecôte, que nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu qui est pour nous accessible et même en nous aujourd'hui, ceux qui font partie de l'Église de Dieu. Mais cela ne suffit pas de recevoir quelque chose. Si Dieu nous donne ce don gratuit, si Dieu nous donne ce magnifique cadeau, c'est pour qu'on fasse quelque chose avec, n'est-ce pas? C'est pour qu'on s'occupe de ses instructions avec son aide, avec son appui, par cette inspiration spirituelle. Considérons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va se baser souvent sur Romains chapitre 8 pour expliquer l'ingrédient, si vous voulez, ou le moment nécessaire pour, si vous voulez, même débuter la conversion. Parce que si nous ne sommes pas nés dans l'Église de Dieu, la conversion représente peut-être quelque chose un peu différent que pour ceux qui sont pour la deuxième ou la troisième ou cinquième génération. Donc, la conversion représente quelque chose un peu différent, peut-être, pour eux, mais on revient toujours à la même chose. Romains 8 nous aide à comprendre cela. Commençons avec le verset 5. Romains 8 est à partir du verset 5. Romains 8, verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Donc, nous avons deux voies présentées par l'apôtre Paul. Il y avait deux choix, si vous voulez, vivre dans le péché ou vivre par l'Esprit. Mais il continue un petit peu plus au verset 6. « Et l'affection de la chair, c'est la mort. » Donc, voilà. D'ici 100 ans, si on commence, si on continue dans l'affection de la chair, voilà le résultat. Mais nous sommes appelés, nous avons la possibilité de comprendre l'instruction divine alors que nous continuons, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est intimité contre Dieu, inimité, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Voyez, c'est un ingrédient essentiel à la base de notre conversion, l'Esprit de Dieu. Et puis verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et Paul continue au verset 9, « Pour vous, les frères et sœurs, les frères et sœurs de l'Église de Dieu qui ont reçu cet Esprit Saint, nous avons une tâche à accomplir. Nous avons un projet dans lequel nous sommes investis. Pour vous, et que je peux souligner, pour Daniel, ici, on peut mettre notre nom là-dedans. C'est pas juste un « vous » un peu ambigu, mais pour moi, personnellement, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc voilà, nous faisons partie de l'Église de Dieu, Nous sommes membres de l'Église parce que nous avons reçu l'Esprit. Et cela implique que nous ne vivons plus par la chair, selon la chair. Mais cela, non, encore une fois, ne suffit pas. Ça ne suffit pas de ne plus vivre par la chair, il faut vivre par l'Esprit. Et la conversion, le processus de la conversion implique vivre avec l'appui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc, nous comprenons en premier lieu la signification de l'appel de Dieu. Jean 6, 44, c'est le Père qui nous appelle, qui nous attire, qui nous donne la possibilité de répondre ou pas. C'est le Père céleste. Jean 6, 44 est très clair à ce sujet. Reportons-nous à Jean 6, 44. C'est un verset que nous connaissons bien, mais ça vaut la peine d'aller lire ce verset pour aujourd'hui dans le contexte de ce sermon. Parce que la façon de présenter cette déclaration, ça nous fait penser à l'apôtre Paul aussi, Romains 8, comme nous venons de lire. Peut-être il était inspiré par ce verset-ci. Verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous devons recevoir en premier lieu l'appel. Et l'appel nous donne accès à la compréhension et nous ne sommes plus aveuglés. Mais encore une fois, ça va bien plus loin, la conversion. On commence par une libération de cet aveuglement spirituel et un individu qui est appelé est capable d'avoir une compréhension et une vie qui n'était pas possible auparavant. Cette personne se rend compte du fait que Dieu a un plan pour l'humanité et pour lui-même, que sa naissance n'était pas par hasard et que les Écritures, la parole de Dieu, sont vraies. Mais des fois, on se demande si certains croient ou font vraiment le progrès. Donc on sait qu'il y a un appel et on sait que l'aveuglement est enlevé. Mais après, il faut aller plus loin. On se rend compte du fait que nous sommes obligés de répondre à cet appel de manière personnelle et individuelle. C'est à nous de faire quelque chose avec ce que Dieu nous accorde, son esprit, et cette connaissance également. La connaissance, s'il nous révèle d'autres connaissances, nous sommes censés d'agir sur ce que nous connaissons. C'est très difficile à agir sur ce que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne la connaissance. Dieu nous donne sa parole. Et nous avons la tâche de l'étudier et de l'incorporer dans notre vie quotidienne. Alors, nous avons compris qu'il faut se repentir, il faut se faire baptiser et il faut recevoir le Saint-Esprit. Cela fait penser au serment de Pierre le jour de la Pentecôte. L'idée que quand les gens ont été touchés au cœur, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. J'espère que pour chacun de nous, nous n'avons jamais cessé de poser cette question à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour continuer dans ce processus de conversion dans l'année 2024 et plus loin. Si on pose cette question quand nous sommes touchés par la parole, voilà, nous voyons les champs de progrès qui s'ouvrent devant nos yeux. Le pardon ne change pas facilement notre comportement, mais le pardon nous donne quand même la possibilité de reconnaître que Dieu est miséricordieux et qu'il intervient pour nous parce qu'il est d'accord pour nous pardonner de nos péchés et pour garder la patience avec nous. Alors, Jésus a même dit aux jeunes riches, si vous vous souvenez, de garder les commandements. Nous avons la loi de Dieu, nous avons les commandements de Dieu à toujours respecter. Donc, cela fait partie de notre conversion. Ce processus n'est pas aléatoire. Nous avons les commandements et l'instruction divine pour nous guider dans ce processus de conversion. Donc, aux Actes chapitre 3, aux Actes chapitre 3, Pierre, encore un autre sermon de Pierre, l'un des premiers sermons après la Pentecôte, Actes chapitre 3, excusez-moi, Actes chapitre 3. Nous avons, après la guérison de l'homme boiteux, il y a encore cette opportunité pour Dieu d'inspirer Pierre quand nous avons une foule ramassée tout autour de lui. Et qu'est-ce qu'il dit à cette foule de gens en Actes chapitre 3, versets 19 à 20? Actes 3, versets 19 et 20. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Intéressant, encore cette phrase, cette expression « convertissez-vous ». Nous avons un rôle à jouer dans la conversion. Ça commence avec un pas, avec un grand pas, comme tout voyage qui commence avec un seul pas. Mais ça ne fait pas tout. Donc, si jamais vous avez participé à la construction d'une maison moderne, vous êtes peut-être au courant d'autres choses qui doivent se passer, qui sont beaucoup compliquées que simplement bâtir les murs et mettre le toit. Peut-être vous avez une idée de tous les détails qui sont nécessaires pour préparer une maison dans laquelle on peut vivre. Dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer un peu à la construction de quelques maisons avec mon père. Et après, j'ai travaillé dans les installations industrielles, dans l'industrie nucléaire aussi. Il y a, par exemple, la préparation du site, la construction de la fondation, l'encadrement, l'installation de fenêtres et portes, le parement, l'électrique, la plomberie, le système de ventilation, l'isolation, la peinture, l'installation des armoires et des comptoirs, salle de bain, la cuisine, les tapis, les revêtements de sol et bien plus. Pourquoi je fais toute cette liste? Parce que, dans la même façon, si nous pensons à la conversion, à ce projet que Dieu est en train de faire en nous, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de choses qui devraient changer quand nous sommes engagés dans la conversion. Donc, nous observons que parmi les premières choses pour la plupart des gens, c'est le respect du sabbat et les jours saints. Donc, aujourd'hui, on va considérer quelques aspects qui devraient changer. Ce sont des aspects, des parties de notre vie qui devraient changer pendant notre processus de conversion. Donc, les premières choses parmi lesquelles on observe souvent, c'est la compréhension de Lévitique 23, des fêtes de l'Éternel, le jour du sabbat et les jours saints. Très, 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 très évident quand quelqu'un met en pratique l'observance du sabbat. Donc, considérons Exode 31. Exode, on remonte en Exode. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, nous sommes bien ancrés sur ces points, mais est-ce qu'on peut dire que notre conversion est complète? Ou est-ce qu'on peut dire que, voilà, nous avons commencé avec des fondements, nous pouvons en construire plus avec l'aide de Dieu? C'est ça l'idée. C'est pas de dire que nous ne respectons pas le sabbat ou de parler simplement de choses qui sont fondamentales, mais sans le fondement, le bâtiment ne va pas tenir. Dans Exode 31, nous avons l'Éternel qui parle, Exode 31, verset 12. Exode 31, verset 12 et jusqu'à verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et cela reste pareil pour nous aujourd'hui. L'Église de Dieu a le signe du sabbat. Nous sommes identifiés par l'observance du sabbat, le respect du sabbat et les jours saints. Cela continue au verset 14, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Quand nous faisons le choix de respecter le sabbat pour la première fois, si cela nous est arrivé dans la vie, alors il faut souvent faire un changement. Des fois, ça demande un changement au niveau du travail, au niveau de notre contact personnel avec d'autres personnes. Cela demande des fois un changement que nous n'avons pas prévu. Mais si nous mettons en avant et en priorité l'observance et le respect du sabbat et les jours saints, nous voyons que Dieu va nous aider à faire ces changements. Voilà pourquoi je mentionne ces choses, c'est parce que souvent, c'est l'une des premières choses que nous voyons chez les gens qui se convertissent. Et encore une fois, le fait que nous respectons le sabbat n'est pas le seul étape de notre conversion, bien sûr. C'est quand même parmi les premières choses qui font partie de la conversion. C'est d'observer le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, si on l'observe, apporte des richesses, la fraternisation, la paix, le repos, des choses que l'homme, des fois, oublie à faire dans ce monde qui est tellement occupé avec le travail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais le sabbat est une priorité ultime pour ceux qui font partie de l'Église. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'intéressait un peu à l'Église et qui vous a dit qu'il respectait le sabbat et qu'il n'observait pas Noël et les Pâques, par exemple? Pour moi, quand les gens m'appellent au téléphone de temps en temps, ici au Canada, ou qu'ils m'écrivent par courriel pour se renseigner sur nos croyances et nos doctrines de l'Église, s'ils me disent ces choses, ça me rassure, ça m'attire, mon attention. Et des fois, je suis très content quand je pense et quand je réfléchis à l'appel de Dieu, à l'appel de Dieu qui commence. Ce sont les premiers pas que nous observons dans la conversion. Alors, j'ai eu un appel cette semaine même, et les gens m'ont demandé cette question-là. Vous êtes les bienvenus. Alors, pourquoi? C'est parce que ces choses sont liées à la conversion. Nous pouvons nous réjouir d'accueillir des gens dans la foi, d'accueillir des gens pour la première fois le jour du sabbat. Et donc, c'est très intéressant. Mais encore une fois, le sabbat étant un signe pour le peuple de Dieu, ce n'est pas le tout pour la conversion. Les jours saints sont également un signe du peuple de Dieu. Et si vous avez commencé avec l'observance du sabbat qui tombe le week-end, Et puis finalement, vous approchez à votre chef au travail pour demander toute une semaine pour observer le fait des tabernacles. Alors vous avez peut-être observé un changement parce que un jour du fin de semaine n'est pas la même chose que toute une semaine, voire plus, pour aller observer la fête des tabernacles. Donc, l'observance de ces jours fait partie d'un changement de comportement qui mène à la conversion. Ça fait partie de la conversion. Si on va se préparer pour la fête des tabernacles et pour les fêtes annuelles qui sont définies, bien sûr, dans Lévitique 23 et ailleurs, ça demande aussi la préparation de notre deuxième dîme pour bien respecter, pour bien observer, participer pleinement. Donc, on commence à apprendre la dîme aussi. On commence également à quelque chose qui nous signale que la personne est sincère et dévouée à Dieu et que cette personne reconnaît que toutes les choses que nous avons reçues sont de Dieu, de toute façon. Considérons Actes chapitre 26. Actes chapitre 26 est assez intéressant parce que ici nous voyons Paul, l'apôtre Paul, qui discute avec le roi Agrippa. Il parle de sa vie propre, sa propre vie. Paul souvent se défend devant les autorités en discutant sa conversion, sa vie, un grand changement qui a eu lieu dans sa vie. Donc, Actes chapitre 26, maintenant on voit comment Paul décrit aux autres, aux autorités de son jour, de son époque, la conversion, le gros changement qui a eu lieu dans sa vie personnelle. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26 et le verset 12. Donc, encore une fois, Paul discute avec Agrippa et il commence avec une explication de tout ce qui s'est passé dans ses premières années, dans sa jeunesse, et on voit une progression, un apprentissage dans la loi de Dieu. Et puis, il persécutait, bien sûr, l'Église. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 12? Actes chapitre 26, c'est le verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Ici, nous observons les détails de l'appel de Dieu, de l'appel même de Jésus-Christ, la voix de l'Éternel, qui et avec ce signe de lumière resplendir, entre dans la vie de Paul. Verset 14, « Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et puis, l'aiguillon étant une baguette avec une pointe pour donner un peu de peine au bœuf, si nous comprenons ce que c'est l'aiguillon. Des fois, le bœuf donnait un coup de pied en réponse au lieu de marcher. Donc, l'idée de regimber contre les aiguillons, c'est de pousser contre cette pression, cette autorité même. Paul sentait des problèmes de conscience pour la persécution qu'il portait sur l'Église du Nouveau Testament. Dieu a souligné cette persécution et que pour lui, il n'était pas d'accord. Donc, voici ce que Jésus a promis à Paul au verset 15 et 16. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appêterai. Donc, voilà un appel avec une mission même associée avec cet appel. Et comme je vous ai dit, si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a partagé avec nous son Esprit Saint, c'est pour qu'on fasse quelque chose avec. Des fois, la mission est plus claire, comme celle de Paul. Des fois, peut-être la mission est plus générale au départ. Et puis, petit à petit, on va identifier un peu plus les détails de cette mission dans notre vie ici. Intéressant, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Donc, non seulement il l'appelle, mais il va l'envoyer vers des païens au lieu de vers ce monde hébraïque dans lequel il vivait. Donc, son appel était pour aller vers les païens même. Et puis, cela continue. Verset 18. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Très bien. « Afin que tu leur ouvres les yeux. » Voilà une mission très, très importante qui a été confiée à l'apôtre Paul. Et nous comprenons que Paul a bien répondu à la tâche, n'est-ce pas? Nous comprenons que tous le fait que Paul s'est identifié comme quelqu'un qui transgressait la volonté de Dieu, qui persécutait même l'Église. Et on voit plus tard dans sa vie, dans ses épîtres, on voit qu'il s'excuse de cette zèle qu'il avait pour persécuter l'Église. Mais revenons à notre combat, à notre conversion. Nous comprenons tous le fait que nous étions tous pécheurs lors de l'appel de Dieu. Dans un sens, on peut dire que tous ont transgressé la loi de Dieu. C'est même dans Romains que nous étudions ça. Par contre, nous sommes des pécheurs qui viennent de différentes cultures, de différents points de vue, qui sont éduqués différemment, qui parlent peut-être de différentes langues. Et qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Il nous demande de nous convertir. De nous convertir pas vers une culture, une langue, mais vers sa voix, sa loi et sa voix qui nous mène vers la vie éternelle. Donc, nous observons que nous devons changer la conversion. Une partie, bien sûr, ça demande le changement. Le repentir, ça signifie un changement de direction. Mais la conversion, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. C'est un processus, tout comme nous venons de le dire. Et c'est un processus dédié à notre vie entière. Parce que nous commençons tous de perspectives différentes, de compréhensions différentes, mais éventuellement, nous allons tous dans la même voie, dans l'unité, avec Dieu qui nous guide par son Esprit Saint. Mais chacun doit changer. Chacun doit se repentir de certaines choses et apprendre à appliquer la parole de Dieu. Donc, pour celui qui abuse l'alcool, il doit cesser de trop boire. Pour une autre personne, il pourrait dire, j'ai pas de problème avec l'alcool, mais je fume. Et cette personne doit travailler sur arrêter de fumer. Il y a toute une variété de choses. Nous avons eu même, je me souviens d'avoir parlé avec l'un de nos membres au Rwanda, qui faisait partie de la force militaire au Rwanda avant d'être appelé dans l'Église de Dieu. Et cette participation à la guerre l'a touché, l'a endommagé, mais cela a produit en lui un désir de changer et de se renier d'être quelqu'un qui était dans le militaire. Donc il ne voulait plus faire la guerre, parce que Dieu l'avait ouvert les yeux. Donc, nous nous souvenons tous de ces grands commandements, de ces grandes lignes de conduite. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Mais ce sont juste les grandes lignes. Alors, nous avons quand même un progrès additionnel à faire. Si nous poursuivons la conversion, cela nous change intérieurement, bien sûr, mais nous sommes appelés à partager l'exemple, à devenir la lumière de la terre, le sel de la terre, et imiter la vie et l'instruction de Jésus-Christ. Et comme je viens de vous mentionner, une partie, c'est notre amour, notre culte envers le Seigneur, notre Dieu, mais une autre grande partie de notre conversion se base sur notre comportement envers notre prochain. Donc, ces deux commandements, aimer Dieu et aimer ton prochain, jouent sur notre amour pour Dieu, mais aussi pour le prochain. Donc, comment faisons-nous? Est-ce que nous faisons de bons progrès en démontrant de l'amour pour notre prochain? Dans un monde qui est de plus en plus isolé, violent et contre la voie de Dieu, qu'est-ce que nous faisons pour démontrer de l'amour envers notre prochain? Intéressant, nous venons d'avoir l'arrivée de nouveaux voisins de notre voisinage. Nous sommes là depuis à peu près un an maintenant, mais toujours le mois de juillet, c'est le moment des camps de déménagement, n'est-ce pas? Et donc, nous venons de recevoir de nouveaux voisins, et j'étais très content quand ma fille m'a demandé, est-ce que je peux aller apporter des petits biscuits à nos nouveaux voisins? Parce que cela m'a démontré son amour pour notre voisinage, pour son prochain, et j'étais très, très content d'entendre cette question chez nous. Parce que c'est très pratique. Vous pouvez dire que c'est quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Et vous avez raison. Mais est-ce que, quand vous voyez de nouveaux voisins arriver dans votre secteur, est-ce que vous pensez à les accueillir, même si vous ne les connaissez pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, ces deux nouveaux voisins, on n'a pas encore envoyé les biscuits. Mais c'est une pensée, bien sûr. Ils viennent de déménager cette semaine. Mais ce matin, ils prenaient un café juste à l'extérieur de leur maison et je les ai vus. J'étais en train de charger le véhicule pour le sabbat et tout ça. Et je les ai vus, j'ai fait signe comme ça. Et ils commençaient à parler avec moi et je suis allé chez eux à l'extérieur et nous avons eu une belle conversation ce matin. Donc, pour moi, notre voisinage est un endroit paisible où je me permettais d'aller parler avec mes voisins comme ça. Et j'ai trouvé ces nouveaux voisins très gentils. Et j'étais très content parce que je voudrais développer un contact avec nos voisins. Mais comme vous, je ne sais pas si vous avez observé que des fois, dans certains endroits, c'est vraiment difficile. Les gens restent à l'intérieur de chez eux et des fois, on ne les voit même pas. Des fois, ils sont pas là ou des fois, ils sont isolés dans la maison. Mais ces deux nouveaux voisins étaient assis à l'extérieur et j'en ai profité ce matin pour leur dire bonjour. Alors, est-ce que nous pensons dans un réflexe, est-ce que nous agissons avec le réflexe de l'amour pour notre prochain? Donc, même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets qui concernent le prochain. Et déjà, s'il perd quelque chose, on va lui rendre. Et puis, notre prochain, c'est une expression qui vraiment a beaucoup de signification. Parce que on se demande alors qui est notre prochain. On pense aux jeunes riches. Et qui est le prochain, ou le docteur de la loi. Et maintenant, considérons Luc chapitre 10 pour approfondir un petit peu plus cette question. Luc chapitre 10, on voit le prétexte ou le préambule de cette parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 25, nous observons au verset 25, Luc chapitre 10, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Voilà une question à la base de notre conversion et une question qui se pose tout au long de notre vie, que ce soit cette année, dans 5 ans, dans 10 ans. Même si nous avons reçu la réponse, l'idée c'est de continuellement s'ajuster à la loi de Dieu, à l'obéissance à Dieu et au progrès spirituel. C'est comme ça que nous avons débuté ce serment, c'est de réfléchir sur notre état de progrès spirituel. Certainement, cette question est importante pour nous. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Donc d'abord, il nous oriente vers sa loi, vers sa parole, pas juste vers nos propres pensées, nos idées, nous-mêmes, mais il y a de l'instruction à suivre, des instructions. Si nous aimons Jésus-Christ, nous observons ses commandements, n'est-ce pas? Verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc, il donne les grandes lignes de la loi, ce docteur de la loi, quelqu'un instruit dans la loi de Dieu. Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc, il voulait se justifier. Luc nous donne un petit détail assez important, parce que sa réponse n'était pas simplement pour connaître quoi faire, mais se justifier. Donc, il va un peu plus loin et il pousse pour avoir un peu plus de justification, si vous voulez. Qui est mon prochain? Est-ce que cette idée nous pousse à dire on peut limiter, on peut se décider qui est notre prochain? Et si on décide, cette personne ne mérite pas ce traitement, ça devrait pas être mon prochain. Ou est-ce que Dieu nous a déjà défini que notre prochain, c'est vraiment tout le monde? Il est intéressant que ce docteur de la loi ait posé cette question. Peut-être il y a un certain préjudice qui existait à l'époque. Et voilà peut-être pourquoi Jésus va se servir de l'exemple du Samaritain, d'un peuple qui n'était pas apprécié par les Juifs à ce moment. Donc, c'est comme si on disait pour ceux qui sont comme moi, qui font partie de mon voisinage, qui pensent comme moi, qui écoutent la même musique ou qui sont un peu semblables à moi, alors moi, je vais les traiter comme de bons voisins, comme mon prochain. Mais peut-être pour d'autres, je vais réserver un autre traitement. Et nous connaissons la réponse. Les Juifs méprisaient les Samaritains à l'époque et Jésus fait en sorte que ça soit le Samaritain qui est le héros du récit. On va sauter le récit pour manque de temps aujourd'hui. Mais au verset 36, nous voyons dans l'explication, la conclusion de toutes ces choses, bien sûr, nous nous souvenons qu'un homme a été parmi les brigands et il était touché de coups et ils avaient tout pris et ce Samaritain qui voyageait a eu de la compassion envers lui. Puis, ce docteur de la loi est en train d'écouter cette histoire. Et voilà verset 36. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Autrement dit, est-ce que c'était le Lévite? Est-ce que c'était le prêtre? Ou est-ce que c'était cet étranger, cet homme mépris? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Intéressant qu'un docteur de la loi, juif, va imiter le comportement d'un Samaritain. C'est quand même très intéressant que Jésus se sert de ces stéréotypes, de ces préjudices pour l'enseigner une certaine humilité. Si nous avons cette humilité envers notre prochain, cela va changer notre comportement. Si nous sommes convertis, si nous sommes sûrs dans ce processus de la conversion, nous allons nous occuper de notre prochain. Et si nous sommes convertis, nous allons aimer notre prochain. Alors, considérant un autre impact, nous avons traité déjà quelques sujets, mais considérant un autre impact sur de la conversion, un autre impact dans ce progrès, ce processus, c'est au niveau de nos mariages. Si Dieu nous a demandé d'apprendre à aimer, il nous a également donné une façon d'apprendre à s'aimer profondément dans le couple marié. Pour ceux qui sont mariés, nous avons une bénédiction vraiment de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour le mariage. Mais pensez-vous que ceux qui sont mariés depuis un certain temps, est-ce que vous pensez que votre mariage rencontre de temps en temps des difficultés? Qu'est-ce que cela veut dire quand nous disons que nous avons peut-être une difficulté dans le mariage? Est-ce que cela veut dire que nous avons des points à améliorer, que nous avons besoin de travailler sur la communication, sur le partage d'idées et de communication et sur l'écoute ou sur la capacité de travailler ensemble? Est-ce que nous considérons cela certaines difficultés avec le mariage? Alors, peut-être, mais je vais vous donner un exemple qui va vous rassurer. Considérons Osée, chapitre 3. Osée, chapitre 3. À cause de l'idolâtrie d'Israël, nous nous souvenons que l'Éternel a prescrit pour Osée une femme adultère comme symbole pour souligner l'infidélité d'Israël. Pourquoi je vous donne cet exemple extrême? C'est pour vous dire que vous n'avez rien à voir avec les problèmes de Osée. Les problèmes de Osée. Osée chapitre 3 et verset 1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. On parle de l'amour, n'est-ce pas? On parle de l'amour de notre prochain, l'amour de notre épouse. Et voilà quelqu'un qui est envoyé pour se marier avec une adultère, qui se tourne vers d'autres dieux et qui aime les gâteaux de raisin. Donc, Dieu demandait à Osée de faire quelque chose de très difficile. Il l'a demandé de se marier avec une femme qui allait commettre l'adultère contre lui. Cela était pour illustrer la relation entre l'Éternel et son peuple dans l'alliance de Moïse et le fait qu'Israël avait fait l'adultère contre l'Éternel. Mais pour aller un peu plus loin, cela nous illustre aussi l'amour éternel, l'amour, la compassion de Dieu. Et le fait que le cœur de l'Éternel ait été touché par cet adultère. Dieu est un Dieu qui aime son peuple, qui s'occupe de son peuple. Et quand nous ne sommes pas obéissants, quand nous sommes en idolâtrie ou quand nous nous éloignons de Dieu, cela lui fait mal. Mais profitons de cet exemple pour souligner les qualités associées avec le mariage, un peu plus loin, un peu avant. Les qualités qui sont censées être présentes quand nous sommes convertis ou quand nous nous engageons dans la conversion. Osée chapitre 2 maintenant. Osée chapitre 2. Et Osée chapitre 2, pour les anglophones, ça risque d'être le verset après. Verset 21, dans la version francophone, verset 21, Osée chapitre 2, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Est-ce que l'Éternel se reconnaît dans nos mariages, dans les relations que nous avons avec notre mari, notre époux, notre épouse? Est-ce que nous proclamons à notre conjoint, « Je serai ton fiancé, ton mari, pour toujours, par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Le mariage demande une implication de chacun des individus. Est-ce que nous attribuons ces vertus au mariage, la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde? En choisissant l'Église comme l'épouse de Jésus-Christ, le Père n'a pas choisi des individus parfaits. Dans un sens, il a choisi ou il a appelé des adultères. Dans un sens, n'est-ce pas? Peut-être un peu imagé, mais ceux qui commettaient l'idolâtrie, le péché, sont bien comparés aux adultères. Mais Dieu est plein de miséricorde, est patient avec nous, et il nous a sauvés de la voie du péché. Mais dans le mariage, nous avons la possibilité de comprendre plus profondément ces vertus de Dieu, ces aspects de caractère de Dieu. Et Paul insiste dans Éphésiens chapitre 5, Paul insiste sur les valeurs et l'importance, non pas seulement du mariage, mais l'imagerie qui est liée entre le mariage ou le symbolisme qui est entre le mariage et notre participation à l'Église. Donc, Éphésiens chapitre 5. La conversion impacte et touche à tout ce que nous avons dans notre vie. Il y a toujours des domaines à surveiller, à observer, à se poser des questions. Est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux améliorer certaines choses, éliminer certaines mauvaises habitudes? Est-ce que nous avons la possibilité d'avoir plus de paix, plus de bonté, plus de jouissance dans notre relation de mariage? Et ça touche à d'autres domaines. Ce processus de la conversion, c'est quelque chose qui demande une réflexion pour s'améliorer, pour aller plus loin, pour ne pas s'arrêter et se dire « Je suis enfin arrivé et maintenant je n'ai plus de choses à changer. » Verset Éphésiens chapitre 5 et le verset 32, nous avons un enseignement concernant Christ et l'Église, mais qui touche aussi à notre relation de couple. Verset 32, Éphésiens chapitre 5 et le verset 32, « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On va remonter quelques versets. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'Éternel discute l'idée de trouver cette femme qui est couverte de sang et qui n'est pas propre, et de purifier, de le laver, son peuple. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Nous aimons tous notre propre cœur. Nous avons même des réflexes pour protéger notre propre corps. Est-ce que nos réflexes sont développés pour s'occuper de notre conjoint et de notre conjointe? Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ce mot « faire » ici, c'est « active », c'est le présent, c'est « actuellement ». Christ s'occupe de son Église. Verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, pour souligner cette leçon, Paul remonte jusqu'à Genèse, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Jusqu'au tout début, pour dire, ce n'est rien de nouveau, le mariage, mais voilà des leçons que nous pouvons en apprendre liées au mariage. Et ça touche notre conversion. Excusez. Si nous sommes bénis avec la possibilité de se marier, nous risquons d'avoir des enfants. Et alors, considérons maintenant l'impact de la conversion sur notre comportement envers nos enfants dans le cadre de ce sujet. Les parents ont une grande responsabilité d'élever leurs enfants, y compris la correction de temps en temps, mais tout le long de leur éducation, il faut prendre en compte ce besoin et leurs besoins. Et il y a quand même la possibilité, bien sûr, que certains pères ou mères n'emploient pas la compassion, mais qui font mal à leurs enfants pour infliger la douleur. Mais Colossiens chapitre 3 nous rappelle de ce principe. Colossiens chapitre 3, Paul nous dit que vis-à-vis de nos enfants, nous avons une responsabilité de ne pas les irriter pour qu'ils se découragent. On peut se servir de l'inverse, des fois, de certains versets, pour comprendre le bon comportement. Mais il faut d'abord aussi comprendre le mauvais comportement ici. Colossiens 3 et le verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à imiter notre père physique, forcément, dans toute chose, mais il nous appelle à imiter son propre exemple comme Père céleste et son Fils Jésus-Christ. Des fois, nos pères physiques ont démontré de bons exemples. Mais si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes erreurs. Encore une chose, la conversion devrait également avoir un impact sur notre comportement au travail. Éphésiens chapitre 6. Aujourd'hui, nous identifions plusieurs domaines dans lesquels la conversion est impliquée. On pourrait dire qu'il n'y a vraiment pas de limite sur la possibilité de faire du progrès. Éphésiens chapitre 6, Paul dit clairement au verset 5, « Serviteurs, ou on peut dire travailleurs ou employés, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Donc, encore une fois, ça joue sur notre rôle, notre façon de respecter, observer la loi de Dieu et la parole de Jésus-Christ. Verset 6, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il va encore plus loin aussi. Il va encore plus loin. C'est notre image, notre relation avec l'autorité, avec nos chefs, est un champ pour que, dans lequel nous pouvons faire du progrès. Verset 7, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Intéressant, si nous servons nos chefs, nos maîtres, si vous voulez, comme nous servons Dieu, cela change notre comportement envers eux, n'est-ce pas? Nous voyons des progrès, des possibilités, des champs à agir, dans lesquels nous pouvons agir. Donc, cette perspective se développe. Nous sommes des serviteurs. Dieu nous appelle à apprendre à servir. Donc, la conversion devrait avoir un impact sur plusieurs choses. Ça va plus loin aussi, notre façon de parler, ça touche à ce que nous, notre capacité de réfléchir, les sujets, ce que nous consommons, si vous voulez, en termes de lecture ou musique ou même les films que nous consultons. Parce que ce que nous voudrions, c'est de consommer ou de bonnes choses qui sont édifiantes. Il y a quelques distractions qui existent. Il y a tellement de distractions, tellement de technologies qu'aujourd'hui, il y a des risques, en particulier chez les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus influencés par les smartphones, par les téléphones intelligents. Et c'est pas le téléphone en lui-même qui fait l'impact. C'est toutes les choses qui peuvent accéder avec ce téléphone. Si nos jeunes sont plus branchés à toutes les idées qui circulent sur l'Internet et avec une seule touche, ils ont accès à tout, ça fait un grand risque d'influencer nos jeunes. Donc, la conversion va nous aider à comprendre, si on s'engage, qu'il y a des choses à modifier, des choses à enlever, des choses à éviter même, pour qu'on reste bien sur ce bon chemin. Donc, nous commençons quand même une nouvelle vie quand nous sommes baptisés dans l'Église de Dieu, mais nous le commençons avec la vision de toujours nous engager dans ce processus de la conversion. Donc, est-ce que nous posons souvent la question, d'une autre façon, que devons-nous faire? Est-ce que nous prions à Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il faut changer? Montre-moi mes fautes, mes erreurs, l'erreur de mes voies. Est-ce que nous avons en tête des choses que nous voudrions changer dans l'année à venir, ou même tout de suite, que nous voudrions mettre de côté? Est-ce que notre cœur est ouvert à l'apprentissage dans la parole de Dieu? Avant de terminer, considérons 2 Pierre. 2 Pierre, où nous trouvons un rappel, je trouve ce rappel très profond, qu'il y a toujours un progrès. Il y a toujours d'autres choses à viser et à travailler et à développer dans la vie chrétienne. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, nous donne encore une liste de vertus, si vous voulez, Les listes se trouvent dans les écrits de Paul et de Pierre également. Dans 2 Pierre chapitre 1, nous identifions certaines listes de vertus ou d'aspects, si on peut dire aspects de caractère. D'après les commentaires que j'ai consultés, cette liste n'a pas un ordre précis. Ce n'est pas une progression. On va juste s'arrêter sur un avant de travailler le prochain et la suivante et la suivante. Non. C'est une liste pour nous identifier plusieurs domaines, plusieurs choses à considérer. Des choses à ajouter à notre foi. Ceci fait partie de notre conversion. Donc, le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, faites-vous tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Donc voilà une liste d'aspects de caractère à travailler dans tous les domaines que nous avons mentionnés aujourd'hui. Donc pour chaque domaine que nous avons mentionné aujourd'hui, nous avons la possibilité de réfléchir sur ces traits de caractère, ces vertus, si vous voulez. Est-ce qu'ils sont présents dans ces relations? Est-ce qu'ils sont présents dans ce rôle? Certains jouent des rôles que d'autres ne jouent pas. Certains sont des parents, certains ne le sont pas. Certains sont au travail dans ces jours-ci, certains sont en retraite. Mais dans les domaines dans lesquels nous existons, nous vivons, nous avons la possibilité de considérer notre conversion, l'impact de notre engagement vers Dieu a toujours nous engagé dans ce processus. Donc, quand nous considérons notre projet sur le plan spirituel dans les années à venir, n'oublions pas cette possibilité, cette promesse, la possibilité de devenir des participants de la nature divine. J'ai triché un peu parce que j'ai commencé avec la liste au verset 5. Mais pour comprendre le pourquoi, au verset 5, nous avons dit « à cause de cela même », mais à cause de quoi? Remontons au verset 3 pour comprendre ce que Pierre voudrait souligner ici. Versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce grand appel, c'est un appel au repentir pour ceux qui découvrent cette voie. Et pour ceux qui restent là-dedans, qui sont engagés, c'est un appel à la conversion. La conversion qui est un processus qui dure le reste de notre vie. »